France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Lorsque Olympe de Gouges rédige cette phrase figurant à l'article 10 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, elle ne se doute peut-être pas de sa dimension prophétique, puisque Olympe de Gouges sera elle-même guillotinée pendant la Terreur en 1793. Olympe de Gouges, le nom de cette figure de la Révolution française, s'est imposé avec les années comme l'emblème de la cause des femmes dans la grande histoire des luttes sociales et des révolutions en France. Une cause oubliée, volontairement reléguée au second plan par les acteurs des événements de 1789. L'émission que voici, un numéro du Vif du sujet par Alexandre Hérault, revient d'abord sur les grands événements de la vie d'Olympe de Gouges, avec un documentaire de Simon Guibert et Gilles Mardy-Rossian. Comment cette femme de lettres et femme de théâtre, née à Montauban en 1748, dans une famille bourgeoise proche de la noblesse, devient-elle une figure majeure des événements révolutionnaires ? Comment prend-elle fait et cause pour l'émancipation des femmes, mais aussi pour l'abolition de l'esclavage, avant de s'opposer violemment à Robespierre et ses amis, ce qui précipite sa chute? Ce sont les questions qui sont abordées dans ce documentaire. En deuxième partie d'émission, une discussion avec l'actrice Laure Dutilleul et l'historienne Evelyne Morin-Rotureau pour tenter de comprendre comment la mémoire d'Olympe de Gouges a été effacée pendant tant d'années de l'histoire des événements révolutionnaires. Voici donc le vif du sujet, Olympe de Gouges, la langue et le couperet, une émission du 17 janvier 2006.
Le vif du sujet.
Olympe de Gouges ou la révolte d'une femme. Gilles Mardy-Rossian, Simon Guibert.
Parmi tous les héros de la Révolution, en reste-t-il encore qui de nos jours pourrait passer à la radio, à la télévision, sans être ridicule, il y en a une que je connais.
Olympe,
irait chez Ardisson, chez Fogiel, chez Ruquier.
Olympe,
déclamer son théâtre, distiller ses pamphlets.
Olympe,
ferait grimper l'audimat direct en zone rouge.
Olympe,
Olympe de Gouges.
Dans cette maison est né le 10 août 1709 Lefranc de Pompignan, poète et magistrat, membre de l'Académie française.
Alors donc Lefranc de Pompignan, c'était le premier magistrat de la ville de Montauban. Et il était aussi le parrain de Anne Olympe Mouissette, qui était la mère d'Olympe de Gouges. Il était de 5 ans son aîné. Et donc c'est un peu une histoire, une belle histoire d'amour qui commence. Ce sont des enfants qui sont élevés ensemble. La famille de Anne Olympe Mouissette était de la grande bourgeoisie de Montauban, donc c'était. Mais le Franc de Pompignan était de la noblesse. Et donc il y a un amour qui est né entre ces deux enfants, qui a grandi en même temps qu'eux. Et quand ils sont arrivés à l'adolescence, les parents de Jean-Jacques ont pensé plus prudent d'éloigner le jeune homme. Et il a quitté Montauban pour n'y revenir que beaucoup plus tard. Et retrouver donc celle qu'il n'avait pas oubliée, qui était mariée, qui avait déjà des enfants, qui était mariée avec Pierre Gousse, qui était boucher. Et la passion a refleuri, et de cette passion est née Olympe de Gouges, qui s'appelait Marie, déjà Marie Gour, qui est née le 7 mai 1748. Alors c'est une belle histoire d'amour, mais qui finit mal, et qui explique un peu le destin d'Olympe, c'est-à-dire qu'elle s'est toujours sentie à la fois noble par son père naturel, à la fois de tous les camps, c'est-à-dire rejetée parce qu'elle était une bâtarde, Et elle a toujours défendu celui qui était le plus faible. Et son principal ennemi, ça a été le préjugé. C'est-à-dire que c'est le préjugé qui a empêché que ses parents puissent se marier, puisque l'un était noble et l'autre n'était que bourgeoise. Et d'autre part aussi, par cette filiation, elle est devenue écrivain, puisque son père était poète. Elle a attendu que son père soit mort pour commencer à publier ses écrits. Donc ici, on est devant l'hôtel Le Franc de Pompignan.
Olivier Blanc, je viens vers vous, car dans une certaine mesure, vous possédez une partie de la paternité de la réhabilitation contemporaine d'Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges, qui est née à Montauban en 1748, vivait à une époque et dans un lieu où les jeunes filles de la petite bourgeoisie ne recevaient pas une éducation traditionnelle très poussée. Olympe de Gouges a reçu des rudiments d'écriture, elle savait lire, ça c'est certain, elle écrivait de manière malhabile, ainsi qu'on peut le constater en lisant ses lettres, mais ça ne l'a jamais empêchée de penser juste. Et lorsqu'elle est venue à Paris, elle s'est sentie attirée par les milieux qu'on pourrait qualifier d'intellectuels. Bon, c'est un peu un anachronisme, mais à l'époque, elle aimait fréquenter les écrivains, les auteurs dramatiques et aussi les milieux artistiques. Elle a fréquenté de préférence un certain nombre de salons, comme celui de Madame de Montesson ou celui de Madame Fanny de Beauharnais, où précisément venaient un certain nombre d'académiciens, d'auteurs. Et c'est dans cette proximité qu'elle a pu se former, qu'elle a eu l'idée de lire certains ouvrages. Elle s'est ouverte aux questions d'actualité. Elle s'est, à travers le théâtre d'une part, mais également à travers des écrits politiques qui marqueront son engagement révolutionnaire. Donc cette autodidacte est une autodidacte qui aurait réussi, disons, puisque en fait son projet de communiquer ses idées, de communiquer ses valeurs, ses valeurs humanistes, a finalement abouti, puisque aujourd'hui on parle d'elle.
Bonjour Betty. Vous êtes devant le numéro 5 de la place Olivier Bien. Nous allons descendre vous ouvrir. Il y a un interphone, c'est CMPP. Comment ? À tout de suite. Bonjour.
L'accusé du jour.
Et alors donc, c'est les éditions Cocagne qui ont entrepris ce...
Les œuvres complètes de l'Olympe de Gouges. Donc voilà le tombeur. Pour quelqu'un qui ne savait pas écrire, heureusement, parce que je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Il y en a encore trois comme ça.
Voilà. Olympe de Gouges, œuvre complète, tome 1. Donc le tome 1, c'est le théâtre.
Voilà. Le tome 2, c'est les écrits philosophiques. Le tome 3, c'est les romans. Et le tome 4, ce sont les écrits journalistiques, quoi, d'humeur.
Politique ?
Aussi, oui. Mais si on veut, tout est politique. C'est-à-dire qu'on peut après redécouper des textes et puis dire bon, ça c'est politique, ça l'est pas, mais en fait ça l'est tout, quoi, ou ça n'est rien. Juste l'autoportrait. Alors donc c'est la présentation d'Olympe. Je m'afflige de tout, je sais rire de même. Une mouche qui me pique sans que je m'y attende me contrarie ou me fait entrer dans une colère insupportable. Mais préparée aux souffrances et aux événements, je suis plus constante et plus paisible que l'homme le plus phlegmatique. Les petits chagrins me désolent, les grands mots me calment
les petits chagrins
et me donnent
me
du
désolent,
courage.
Les grands mots
je
me
suis
pétrie
de petits défauts,
courage.
Mais je possède
je suis
de grandes vertus.
De petits défauts,
peu de personnes
mais
me
je possède de grandes vertus.
Peu, sont en état de
peu de personnes me connaissent à fond. Peu sont en état de m'apprécier. On a eu différentes disputes sur mon compte. Les uns me voient d'une façon... Chacun me juge différemment et je suis cependant toujours la même. Ce n'est pas moi qui varie. Je ne puis sympathiser qu'avec des personnes véritablement honnêtes. J'aborde les hommes faux. Je déteste les méchants. Je fuis les fripons, je chasse les flatteurs. On peut juger par là que je suis souvent seule. Je ne m'ennuie pas avec moi-même. Je ne crains pas la contagion. J'étais faite sans doute pour la société. Je les fuis de bonne heure. Je me plains des méchants parce que je ne sais pas leur nuire, ni m'en venger secrètement. Je plaisante sur moi et sur les autres parce que je suis naturellement gaie. Je ris déjà de ce qui doit m'arriver parce que je pense qu'il n'est pas nécessaire que je m'afflige. Je suis simple avec tout le monde. Fière avec les grands parce que jamais les titres ni les honneurs n'ont pu m'éblouir. On ne s'aperçoit jamais dans mes discours que j'ai quelques prétentions, à moins que je ne sois avec des personnes de l'art. Je suis toujours à mille lieues de mon genre. Voilà le pédantisme qui m'accompagne. Et quand je parviendrai à une célébrité que je ne puis espérer, on me verra toujours cette même simplicité que j'ai eue avant d'être auteur. De Gouges.
Et son principal ennemi, ça a été le préjugé. C'est-à-dire que c'est le préjugé qui a empêché que ses parents puissent se marier, puisque l'un était noble et l'autre n'était que bourgeoise. Et d'autre part aussi, par cette filiation, elle est devenue écrivain, puisque son père était poète. Elle a attendu que son père soit mort pour commencer à publier ses écrits.
Un jour, Colombe de Gouges était dans une voiture qui reliait Passy à Paris, elle entendit une conversation qui s'engagea à son sujet. Surprise, elle se tourna vers son voisin.
Vous la connaissez si bien que cela ?
Certainement. Son mari était traiteur, elle n'a pas voulu porter son nom. On ne sait de qui elle est née. Quant à ses ouvrages, pourriez-vous croire qu'elle en ait jamais pensé un mot ? Elle ne sait pas lire, on les lui fait. Et on affecte même de la négligence et de l'incorrection de style pour mieux faire croire qu'ils sont d'elle.
Cependant, je l'ai vu composer une pièce devant plusieurs personnes et gagner un pari à ce sujet.
Ah, madame, la pièce était faite d'avance et on la lui avait apprise par cœur.
En êtes-vous bien sûr ?
Tellement sûr que je gagerais bien qu'elle ne recommencerait pas devant moi, car je lui en ai déjà fait une. Au reste, je vous en parle savamment, car vous voyez devant vous un de ses fortunés adorateurs.
Monsieur, j'ai écouté vos sots propos avec le calme d'un philosophe, le courage d'un homme et l'œil d'un observateur. Je suis cette même Olympe de Gouges que vous n'avez jamais connue et que vous n'êtes même pas fait pour connaître. Profitez de la leçon que je vous donne. On trouve communément des hommes de votre espèce, mais apprenez qu'il faut des siècles pour faire des femmes de ma trempe.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Donc ici on est devant l'hôtel... Le Franc de Pompignan.
Alors Betty, est-ce qu'on peut tenter une description de ce bâtiment, qui en fait est peut-être un hôtel particulier ?
Alors c'est un hôtel particulier dont la cour nous paraît inaccessible. Il est fermé par des grilles, comme ce monde du père d'Olympe lui était inaccessible à elle aussi. Et le premier écrit qu'elle a publié, ce sont les mémoires de Madame de Valmont, où elle s'adresse à son jeune demi-frère, qui lui est l'héritier du titre.
Et donc, la grille principale permettait probablement aux calèches...
Voilà, il y a un au rez-de-chaussée, c'était les écuries, avec, on voit, les grandes portes voûtées, qui étaient ouvertes. Et ensuite, l'habitation, c'était au premier étage.
Avec probablement la domesticité au deuxième et dernier étage.
Voilà.
Ouais, magnifique bâtiment. On poursuit cette visite ?
On poursuit.
Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe, tu as 200 ans et toujours pas démodé. Ils sont nombreux. Récupérer tes idées pourvu que de notre vivant on les voit se réaliser. Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturelle, fille de Pompignan. Olympe universelle et fille de Montauban.
Olympe, tu as 200 ans et toujours pas démodé. Ils sont nombreux les prétendants à récupérer tes idées
pourvu que de notre vivant, on les voit se réaliser.
Françoise Chapuis.
C'est l'idée que, tout en étant un personnage qui, effectivement, a 200 ans aujourd'hui, elle soulève des problèmes qui sont toujours d'actualité. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où la femme n'a pas le droit de voter. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle. Nous-mêmes, en France, ça ne fait pas très très longtemps qu'on a ce droit-là. Donc voilà, l'idée du premier couplet, c'est ça, quoi. Ce qui est marrant, c'est que Olem de Gouges, c'est un homme qui me l'a présenté. Et je trouve ça joli comme idée. D'ailleurs, la femme de Castin, Betty, je l'ai souvent entendu dire « Je suis peut-être la seule femme à avoir en concurrence et à être jalouse d'une femme qui a 200 ans. » Je trouvais jolie cette image. Et voilà, c'était une sacrée bonne femme, Olympe. Et autant sur cette histoire de droit de vote pour les femmes que, par exemple, sur les positions qu'elle a prises contre l'esclavage, etc. Je trouve que c'est des idées d'une... malheureusement, d'une grande actualité encore, quoi.
Les femmes ne forment-elles pas la moitié de la société? Et malheureusement, leur peu d'émulation contribue à la perte de l'autre moitié.
Olivier Blanc, quand, selon vous, Olympe de Gouges rentre-t-elle en politique?
Finalement, bien avant 1789. Je crois que Olympe de Gouges a eu une culture politique sommaire, certainement, puisqu'elle avait effectivement pas un background historique, culturel très, très important que lorsqu'elle était jeune. Mais quand même, à partir de 35-40 ans, c'est-à-dire dans la période pré-révolutionnaire, on voit que elle se rapproche beaucoup de cercles politiques, ceux du Palais Royal, ceux du Duc de Chartres, puis d'Orléans. Elle connaît Chauderlot de Laclos et elle appartient donc à des coteries qui finalement vont s'opposer à Versailles. Donc elle s'implique dans la vie politique en publiant un premier écrit qu'elle a longuement médité. Ça s'appelle La lettre au peuple. C'est publié en 1788.
Il est un autre genre de malheureux. Ce sont les vieillards. Ah, combien leur sort m'intéresse. Dans la belle saison, ils s'occupent encore de quelques travaux qui les aident à traîner le reste d'une misérable vie. Mais dans l'hiver, dans les gelées, les glaçons de l'âge n'ont déjà que trop refroidi leur vigueur épuisée, et n'ayant pas la force d'aller mendier leur pain, ils manquent des besoins les plus urgents de la vie. Ils s'enveloppent dans des haillons, sur leurs grabats, et on les trouve morts de faim et gelés de froidure.
Elle a suivi cette lettre au peuple de remarques patriotiques par une citoyenne. Et donc, dans ces deux ouvrages, elle développe toutes ses idées de réforme, tant sociale que aussi bien économique, puisqu'elle propose diverses mesures, un impôt volontaire que paierait chaque citoyen. Elle propose des réformes agraires, elle propose une redistribution des richesses. Elle est finalement très d'avant-garde, on peut dire, sur le plan donc des réformes. Pour cette période de 1788, il est entendu que en 1791, soit 3 ans plus tard, elle-même paraîtra modérée, et de modérée, on l'accusera même d'être demeurée royaliste, puisqu'elle sera, vous le savez, royaliste constitutionnelle. Elle voudra une monarchie constitutionnelle pour la France, comme il en existe en Espagne aujourd'hui, ou aux Pays-Bas, etc. Donc Olympe de Gouges, en 1788, apparaît comme une révolutionnaire, comme le sont d'ailleurs des gens comme Brissot, Camille Desmoulins, le duc d'Orléans lui-même, qui sera aussi un des premiers à réclamer l'abolition des privilèges. Donc l'engagement politique d'Olympe de Gouges, pour répondre à votre question, démarre évidemment bien des mois avant les événements, les grands événements de 89, la prise de la Bastille, etc.
Et rue d'Elly, au coin des deux rues, on voit à 3 mètres du sol à peu près, il y a une tête de négresse.
Et ah, la fameuse négresse!
C'était une négresse donc, du temps d'Olympe qui était à cet endroit et qui vendait des fruits et des légumes. Et quand elle était enfant, dans son texte sur l'esclavage des Noirs, elle explique qu'elle a vu une négresse en train de vendre des fruits et des légumes. Elle a demandé qu'est-ce que c'était, parce qu'elle n'avait jamais vu de personnes de peau de couleur. Et on lui a dit, ce n'est pas un être humain, c'est même pas un animal, ne t'en occupe pas. Et elle dit qu'elle a été scandalisée au plus profond de sa chair, de ses entrailles, elle a été révoltée.
Elle avait la faculté de s'enthousiasmer ou de se scandaliser pour les choses. Et dans le texte là, pour les hommes noirs, elle s'est intéressée à l'esclavage des Noirs parce que quand elle était enfant, donc elle habitait à côté de la place nationale à Montauban, et à un coin de rue, on le voit encore dans le mur, il y a le portrait d'une négresse. Et alors tout le monde se demande ce que c'est que ce portrait de cette négresse. C'était une négresse qui était là et qui vendait des légumes. Et alors, enfant, quand elle avait 6 ou 7 ans, elle avait vu cette femme noire, elle n'avait jamais vue, et elle avait demandé, mais qui c'est, qu'est-ce que c'est? Et on lui avait dit, oh, ce n'est pas un être humain, ce sont des animaux. Et alors elle dit, dans le texte, elle dit, à peine mes connaissances commençaient à se développer, et dans un âge où les enfants ne pensent pas, que l'aspect d'une négresse que je vis pour la première fois me porta à réfléchir et à faire des questions sur sa couleur. Ce que je pus interroger, alors, ne satisfirent point ma curiosité et mon raisonnement. Ils traitaient ces gens-là de brutes, d'êtres que le ciel avait maudits. Mais en avançant en âge, je vis clairement que c'était la force et le préjugé qu'ils avaient condamné à cet horrible esclavage, que la nature n'y avait aucune part et que l'injuste et puissant intérêt des Blancs avait tout fait. Et alors elle dit qu'elle, ça lui fait mal au ventre, quoi. À chaque fois qu'elle est devant une injustice, elle le ressent physiquement. Elle ne peut pas supporter l'injustice.
Tu luttes contre les vents, l'éventail des idées préconçues ou inventées. Et sûr que tu as gêné les nantis, les négriers, tes voisins, ils le cherchaient. L'Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturelle, fille de Pompignan,
tu luttes contre les vents, l'éventail des idées préconçues ou éventées, et sûr que tu as gêné les nantis, les négriers, tes voisins et le clergé. Moi, j'étais par exemple étonnée sur ce qu'elle pouvait dire sur l'abolition de l'esclavage. Elle disait par exemple, c'est des souvenirs assez vagues que j'ai, mais c'était enlever la liberté à quelqu'un et sa seule quête, ça va être de la reconquérir. Et donnez-la lui, et il sera du coup beaucoup plus accessible et beaucoup moins. Il aura beaucoup moins envie de s'enfuir, quoi. Et c'est vraiment un principe humain de base, qui n'est pas un principe politique, qui est vraiment un principe humain. Voilà, moi je trouve qu'elle avait une façon d'aborder les choses qui n'était pas que militante, qui était beaucoup teintée par humainement ce qu'elle était, par ce qu'elle a vécu, et par le fait qu'elle était femme, quoi. Et puis voilà, et puis ta vertu, tu garderas ta vertu, tu ne succomberas pas au premier venu, machin, tu te feras respecter, tu ne coucheras pas au premier rendez-vous. Enfin, ce genre de truc qui, mine de rien, fait partie de la vie et qui fait que, par exemple, moi, les moments où je peux échapper au quotidien, et j'adore ça, j'adore tellement ça que j'en ai fait mon métier, eh ben, c'est toujours des moments où je suis pas que femme, quoi. Je sors un peu de ma vie sexuée, je vais dire, de mon état de femme pour être un personnage autonome qui peut exister là-dedans, mais en dehors de ça, quoi.
La France. Que sait-on si une femme ne vaut pas un homme en politique dans ce siècle frivole et d'égoïsme? Un cœur véritablement patriotique peut trouver des vertueux projets et faire des heureuses découvertes. L'histoire de tous les pays prouve assez que les femmes ne sont pas toujours inutiles.
La vérité. Il n'en est point des femmes comme des hommes. Toutes ne se dévouent point au bien de la patrie, parce qu'il en coûte trop de sacrifices. Soit vertu de caractère ou bizarrerie du sexe, on peut les distinguer de cette manière.
Ce sexe toujours subordonné a toujours cherché à entrer en lice avec celui qui lui a fait sans cesse la loi. Et il semble qu'il n'ait le droit d'élever la voix que dans les grandes crises. C'est une injustice de la part des hommes de ne point admettre les femmes dans les affaires et de ne pas leur abandonner quelque pouvoir quand elles sont capables d'en faire bon usage.
Il y aurait de l'injustice à étouffer leurs découvertes quand elles ne tendent qu'au bien de la patrie et une cruauté barbare à les rejeter.
J'entends. Elles ne peuvent triompher que dans le silence.
Leur jouissance est encore assez grande. Et une femme qui voit prospérer dans les mains des hommes le fruit de ses utiles occupations est assez récompensée.
Comment ? Pas le moindre remerciement, pas une marque distinctive, un bout de ruban de mérite ? Tandis que, souvent, pour avoir fait un éloge, une comédie, les hommes soutiennent les honneurs de la noblesse. On doit convenir qu'une femme qui travaille tant au bien de son pays mérite non seulement l'estime de tous les hommes, mais encore quelques marques distinctives. J'en connais une qui se sacrifierait en romaine pour sauver son pays.
L'ascenseur qui va nous permettre de descendre sur les bords du Tarn, là où les drapiers faisaient leur teinture.
Voilà.
Olympe a dit « Sous l'Ancien Régime, une femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait sans fortune à ses pieds. Si elle n'en profitait pas, elle n'était plus considérée que comme une mauvaise tête. »
Voilà Villebasse en face. Et le quartier des gens qui s'occupaient des tissus, c'était là-bas.
Où allez-vous nous emmener maintenant, Betty ?
Alors maintenant, nous allons aller au bord du Tarn, puisque c'est là où s'est achevée la vie de son mari, puisqu'il est mort donc un an après qu'elle l'ait épousé. Il est mort dans les inondations,
c'est cela, en, fait,
en essayant de sauver des gens qui étaient en train de se noyer.
Olympe s'est retrouvée veuve extrêmement jeune.
Voilà. Et ensuite, elle a rencontré de Beatrix. Et elle est montée avec lui à Paris, où il lui a assuré une rente pendant une grande partie de son existence. Et elle n'a jamais voulu l'épouser parce qu'elle était, cette première expérience du mariage l'avait dégoûtée de la renouveler.
Elle fit ses bagages à la tribune comme sur les tréteaux. Elle montra quel était son courage. En ce temps-là, être une citoyenne, c'était coton à ce que l'on nous dit. Méprisant ceux qui la traitaient de chienne, elle combattit l'oppression sans répit.
C'était quelqu'un qui était dans son temps, puisque à partir de 89, quand il y a eu la Révolution, elle déménageait chaque fois qu'il se passait quelque chose. Elle voulait être au milieu, elle déménageait. Elle a déménagé 20 fois pour être au milieu de l'action, en pleine action.
Méprisant ceux qui la traitaient de chienne, elle combattit l'oppression sans répit.
Olympe de Gouges rédige carrément une véritable déclaration des droits de la femme. Article 1er, la femme naît libre et demeure égale de l'homme en droit. Ses droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Et Olympe de Gouges interpelle les hommes et les femmes. Homme, es-tu capable d'être juste? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Femme, réveille-toi, reconnais tes droits. Je terminerai par ces mots un peu désabusés d'Olympe de Gouges. Femme, quels sont les avantages que vous avez recueillis de la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Femme, ô femme, quand cesserez-vous d'être aveugle?
Ô femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous avez régné sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme.
Olivier Blond, quand Olympe de Gouges est-elle définitivement agacée par l'immobilisme des femmes, ses contemporaines?
Alors, l'homme de gauche attendait beaucoup de la Révolution. Elle attendait que la Révolution donne des droits politiques aux femmes. Elle est déçue, elle l'exprime lorsqu'elle publie en septembre 1791 sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et ses premières démarches, ses premiers écrits, ses interventions publiques dans certains clubs en faveur des femmes ne reçoivent pas beaucoup d'écho. Elle s'étonne aussi que des manifestes qu'elle adresse à l'Assemblée nationale constituante ne trouvent pas non plus d'écho politique, et entre autres sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui finalement n'intéresse pas les législateurs. Alors, elle s'indigne aussi que les femmes ne soient pas plus solidaires entre elles, et elle considère que beaucoup d'entre elles manquent de générosité et n'applaudissent pas facilement lorsqu'une femme, comme elle, Olympe de Gouges, essaie d'entreprendre des choses, essaie de faire avancer les choses. Ça, elle l'écrit longuement dans plusieurs de ses textes de 1792. Il faut savoir que les textes politiques d'Olympe de Gouges, en général, il y a une idée principale qui est développée, mais en général, il y a beaucoup d'incidentes. Assez facilement, elle parle d'autres sujets et elle revient très, très, très régulièrement sur la question des femmes dans la société.
Olympe naturel, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe naturelle, fille de Pompignan, Olympe universelle et fille de Montauban. Olympe à droite, Olympe à gauche, Olympe politisée, Olympe au centre de l'idée qu'il était en désormais d'accorder même aux féminines les droits du citoyen.
Olympe à gauche, Olympe à droite, Olympe politisée, Olympe au centre de l'idée qu'il était temps désormais d'accorder même aux féminins les droits du citoyen.
Alors là, vous faites clairement référence à la déclaration des droits de la femme et, et de la citoyenne qu'Olympe a commis à la fin de sa vie. Alors,
qu'elle a commise, ouais, c'est vrai. La malheureuse.
C'est aussi une des choses qui ont beaucoup énervé la gens masculine contre elle.
Oui, puis certainement quelques femmes, quoi. J'exclus pas du tout le fait que ça ait pu irriter aussi des femmes, quoi. Mais des femmes dont certaines savent très bien le pouvoir qu'on a en tant que femme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le droit de vote, c'est évidemment élémentaire. C'était pas normal qu'on l'ait pas. Mais par ailleurs, moi j'ai le sentiment que la femme sait très bien, connaît très bien ses armes, ses pouvoirs, et qu'elle sait très bien les utiliser depuis toujours, quoi. Faut aussi savoir reconnaître ça quand on parle des femmes. Après, le truc Olympe à gauche, Olympe à droite, c'est parce que, comme on en parlait tout à l'heure, pour resituer Olympe dans un cadre politique actuel, avec les représentations qu'on se fait de la gauche, de la droite, du centre, de tout ça, je sais pas trop où la caser, moi. J'ai l'impression qu'elle a des idées humanistes, des idées de gauche, et à côté de ça, elle défendait Louis XVI, Marie-Antoinette, elle ressemblait plus à royaliste, monarchiste, et puis c'est très étonnant, quoi. Donc moi personnellement, j'ai pas réussi à la mettre dans un tiroir comme il faut faire pour être tranquille. J'ai pas réussi à savoir exactement si elle existait, si elle vivait encore maintenant, où elle se situerait, par exemple.
Pour vous raconter une anecdote assez croustillante, hein, on a demandé à ce qu'un collège qui s'appelait Collège Montplaisir prennent le nom d'Olympe de Gouges. Ça a été très compliqué, très dur. C'était le conseil général qui s'occupe toujours des collèges. Il a fallu l'intervention d'Elisabeth Badinter qui vienne faire honte aux conseillers généraux pour qu'on puisse donner le nom d'Olympe de Gouges au collège Montplaisir. Et on avait une amie qui était en stage de documentaliste au collège Montplaisir qui devait être inspectée. Elle était allée chercher son inspecteur au train. Et l'inspecteur lui avait dit, mais ça ne vous gêne pas d'être en stage dans un collège qui porte le nom d'une prostituée. Voilà, donc les médisants sont la vie dure. On a célébré là, en 95, c'était le 50e anniversaire du droit de vote des femmes, et on a organisé un concert avec tous les musiciens de l'Animagino, il y avait les Famoustés, pour célébrer donc en l'honneur d'Olympe de Gouges. Et j'avais fait une petite exposition où j'avais mis les textes, tout ça. Ça a été déchiré, je tout retrouve en mille morceaux. C'est-à-dire qu'elle est toujours virulente. Pour la célébration de la journée de la femme, il y a 6 ans de ça, ma bouchère avait voulu exposer les droits de la femme dans sa boucherie. Et il y a un client qui a protesté en disant que c'était un scandale et il n'a jamais plus remis les pieds dans cette boucherie. Alors que s'il avait lu le texte, il aurait vu que bon, elle était peut-être plus virulente envers les femmes qu'envers les hommes dans son texte des droits de la femme. Mais c'est quelque chose qui est toujours actif, le virus Olympe de Gouges.
Bonjour madame, je désirerais avoir le numéro de téléphone de Chantal Bigot, B-I-G-O-T, qui serait domiciliée 68 rue Bonaparte, à Paris, dans le 6e arrondissement.
Olympe a dit...
Librairie des femmes, Amazon.
Je touche au moment terrible où l'écrivain le plus prévenu de son mérite frémit à l'approche du jour qui doit décider de sa honte ou de sa gloire.
40 46 08 37, la librairie Amazon. Chantal ? Bonjour, c'est Simon à l'appareil. Je suis devant le 68 rue Bonaparte. Je compose 59B17, qui est censé être le code, et la porte refuse désespérément de s'ouvrir. Eh bien, à tout de suite.
Olympe a dit, on peut rosser un huissier, mais un commissaire, il faut lui parler poliment d'abord.
Est-ce que vous savez qu'elle s'est beaucoup exprimée par voie d'affiche, pendant la Révolution en tout cas? Comme c'était quelqu'un qui était extrêmement... Je pensais surtout à la vivacité de la pensée. Je pense que dès que quelque chose frappait sa pensée, dès que quelque chose lui portait au cœur, il fallait qu'elle réagisse tout de suite. Et la réaction immédiate, elle écrivait, enfin elle dictait, elle a surtout dicté. Donc elle dictait ses textes, il fallait tout de suite que ce soit à l'imprimerie, et elle réagissait à chaud, et donc elle faisait ensuite placard dans la nuit ses affiches, et tout ce qui est placardé, évidemment, c'est des objets qui ne restent pas, puisque les affiches sont déchirées ou sont souillées par la boue, par la pluie, n'importe quoi, généralement déchirées, je pense, par ses adversaires politiques. Et donc ça ne restait pas. Et les affiches, c'est très rare, beaucoup plus que les livres.
Vous souvenez-vous du sujet de cette affiche ?
Oui, bien sûr. J'en ai le texte. Attendez, je vais vous trouver ça. J'en ai le texte. Oui, j'en ai gardé le texte quand même, encore qu'il ait été publié. Mais c'était une affiche qu'elle a fait placarder en 93. Je ne sais pas la date exacte puisqu'elle ne l'avait pas marquée. Et elle, c'était une adresse aux membres de la Convention où elle les sermonnait. En quelque sorte, elle les adjurait de cesser leur querelle de parti. Vous savez que à la Convention, vous aviez les Montagnards, les Girondins, entre autres. Vous avez ceux qu'on appelait la Plaine, qui fluctuaient selon les événements. Et au sein même des grands partis, vous aviez des groupes. Les Brissotins, les Hébertistes et tout ce petit monde, évidemment, s'insultaient et cherchaient à prendre le pouvoir au détriment des autres et essayaient d'éliminer les autres. Et elle estimait que ce n'était pas du tout rendre service à la patrie, que ces querelles intestines, en fait, servaient plutôt l'étranger. On était alors en guerre contre nos voisins, et elle estimait que c'était faire le jeu de l'étranger et des contre-révolutionnaires. Et elle les a insultés carrément.
Oui, c'est ça.
Elle était très violente. Elle n'hésitait pas à rentrer dans le chou.
Oui, y compris de Robespierre.
De tout le monde, y compris de Robespierre, oui, bien sûr. D'ailleurs, elle dit un moment, voilà, je vous en lis une phrase. Montagne, plaine, rolandiste, brissotin, girondiste, robespierriste, maratiste, disparaissez.
Épithètes infâmes, disparaissez à jamais.
Que les noms de
législateurs, de frères, vous remplacent pour le bonheur du peuple, pour la tranquillité sociale et pour le triomphe de la patrie. Quel exemple de fraternité les sections de Paris, la Commune
et tous les pouvoirs constitués
ne vous ont-ils pas donné hier ? Ils ne se sont pas contentés d'avoir veillé à la conservation de vos têtes,
mais ils ont encore voulu, par un pacte solennel avec nos braves volontaires,
graver dans tous les cœurs que ces têtes sont absolument enchaînées au salut de la patrie.
Qu'une réunion sincère de votre part
peut seule opérer.
Pourriez-vous balancer quand la prospérité de la République vous en fait un devoir sacré ?
Voilà, ils étaient tous visés. Je vous la laisse.
Chantal Bigot, à votre avis, comment se fait-il que les femmes de nationalité néerlandaise, américaine, anglaise ou allemande se soient intéressées davantage à Olympe de Gouges que les Françaises ?
Mais je n'en ai pas la moindre idée. C'est incompréhensible, ce dédain des Français pour Olympe de Gouges. Je ne comprends pas. C'est très mystérieux. Vous savez que ce quartier de Saint-Sulpice, elle l'a bien connu. Elle a habité rue Servandoni. Il y a une plaque rue Servandoni. Quand vous remontez la rue, sur la droite, il y a une plaque qui rappelle qu'elle y a passé. Et en face, de l'autre côté de la rue, il y a le dernier domicile de Condorcet, avec une plaque également. Donc elle a entendu ces cloches.
Un sortilège sur cette place nationale, c'est que si on met le pied sur une plaque magique, même si on est un Montalbanais du cru, on perd le sens de l'orientation, on ne sait plus où sont les rues.
Olympe s'engageait de plus en plus dangereusement. Elle couvrait Paris d'affiches, se ruinant chez les imprimeurs.
La citoyenne de Gouges, ça n'est pas celle qui voulait prendre la défense du roi.
C'est vous, citoyenne, qui avez pris la défense du roi ?
Oui, il s'agit pour le moment de savoir si cet homme voulait ou non m'assassiner.
Allez, allez, citoyenne, remettez-vous, rentrez chez vous. Et ne dérangez plus la garde nationale pour des bêtises.
Hein ? Ah ben, merci. Avec vous, les gens peuvent toujours se faire assommer.
Olivier Blanc, quand Olympe de Gouges enclenche-t-elle la machine infernale qui va la mener jusqu'à l'échafaud ?
Il est certain que lorsqu'elle se propose pour prendre la défense de Louis XVI à la Convention nationale, elle va effectivement se démarquer. Déjà, on l'a remarqué par différents écrits où elle stigmatise les massacres de septembre, où elle s'en prend à Robespierre et à Marat dans des textes, entre autres un texte qui s'appelle « Les fantômes de l'opinion publique ». Mais il est vrai que son intervention à la Convention le 15 décembre 1792, donc au début du procès de Louis XVI, a été très très mal vue, et au point que la foule l'a suivie et une fois retournée chez elle, l'a interpellée et elle aurait pu paraître à sa fenêtre. Elle a préféré descendre et elle a failli être lynchée. Elle a une sorte de courage, d'intrépidité très, très extraordinaire en diverses circonstances. Mais il est certain que ces prises de risques successives ne sont pas, comme on a cherché à le suggérer, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de la folie. Les Goncourt ont parlé de folie héroïque puisqu'il s'agissait d'une femme. Et les Goncourt sont, comme vous le savez, profondément misogyne. Tous les textes qu'ils ont écrits au sujet de femmes, des femmes, sont extrêmement peu digestes, enfin je dirais, et en tout cas sont aujourd'hui totalement anachroniques. Et à leur époque, ils ne comprenaient pas que Olympe de Gouges puisse, comme, en tant que femme, manifester du courage. Moi, je pense que les femmes de la Résistance ont, elles aussi, pris un certain nombre de risques sans toujours savoir où elles allaient. Elles ne savaient pas qu'elles serait l'avenir, qui seraient les vainqueurs, qui seraient les vaincus. Et Olympe de Gouges a fait partie de ces gens comme Camille Desmoulins, qui jusqu'au dernier moment vont croire encore, vont continuer, persister à défendre ce qui leur paraît juste.
Alors, quelle est la suite ?
La suite, c'est la fin. La suite, c'est la fin. C'est ou l'impatiente, ou l'impulsive, ou l'impardonnée, ou l'impétueuse, ou l'intrépide. Ta tête, ils l'ont coupée. Olympe et Olympératrice de toute liberté.
C'est la fin. De toute liberté.
Ouais.
On en revient toujours, c'est les fondamentaux après tout, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité.
Ouais, mais voilà, c'est pour ça que c'est intemporel tout ça en fait. C'est peut-être pour ça, ça touche à des choses. Voilà, puis elle a dérangé beaucoup de gens, quoi. Elle a mélangé beaucoup de gens, elle a été très critiquée, très, très agressée, très. Elle a dû faire peur, quoi. Elle a dû faire peur en tant que personnage et alors en tant que femme, n'en parlons même pas, quoi.
Mais de nos jours encore, la censure sévit, même si plus personne ne finit raccourci. L'opprobre, le mensonge, la haine, la calomnie. Hier comme aujourd'hui, vous cloue au pilori.
Olympe,
frais d'œil de match de gala de voici.
Olympe,
comme ce fut le cas dans sa première vie.
Olympe
serait traité de pute, de radasse, de bouge.
Olympe,
Olympe de Gouge.
De la mort de l'Olympe de Gouges jusqu'au XXe siècle, on va la tenir loin des manuels scolaires, loin de l'historiographie officielle de la Révolution française. Et puis tout d'un coup, elle, hop, elle ressurgit.
C'est André Méliletto, en 78, qui a écrit une pièce qui s'appelait « Les drapiers jacobins » et qui était un peu l'histoire de Montauban au moment de la Révolution. Et le propos, c'est il faut écrire les nouveaux droits, il faut les écrire en occitan pour que les gens comprennent l'occitan, puisqu'ils ne comprenaient pas le français. Si on ne leur dit pas leurs droits en occitan, ils ne comprendront pas. Et dans ce contexte-là, il avait fait lire les droits de la femme sur la place nationale. Donc ça, c'était en 78. Et Félix Cassin, il connaissait Olympe de Gouges comme quelqu'un justement hystérique qui savait ni rien ni écrire, prostituée, bon. Et puis, comme il était quand même un peu de la partie littérature, il a lu ce texte, il a trouvé que c'était quand même bien écrit pour quelqu'un qui ne savait pas écrire, point. Ensuite, là-dessus, il y a quelqu'un, donc, une montalmanesque qui s'appelle Janine Garrison, qui a conseillé à un ami historien parisien qui cherchait un sujet de thèse qui s'appelait Olivier Blanc. Elle lui a conseillé de s'intéresser à Olympe de Gouges. Personne n'avait jamais fait de thèse sur Olympe de Gouges, donc il l'a faite. Elle a été publiée en 81, et on lui doit quand même d'avoir bien débroussaillé. Et donc à partir de l'anneau, c'était au moment du bicentenaire de la Révolution, on s'est dit, dans le cadre du festival de théâtre, on pourrait représenter une pièce d'Olympe. Et puis publier un extrait de texte, quoi, parce que peut-être tout n'est pas bon, on va essayer de trouver. Et puis on a eu d'abord du mal à réunir tous les textes parce que c'était dispersé partout. Et quand on a fait ce travail-là, on s'est aperçu que c'était un auteur. Et donc on a entrepris de publier ses œuvres complètes. On s'est dit, pour mettre fin aux polémiques, le mieux c'est de publier, de mettre à disposition des gens, que les gens puissent se rendre compte de si, oui ou non, ce qu'on dit, c'est vrai ou pas.
Deux fois ça suffit.
Il faut savoir que déjà à la fin du XVIIIe siècle, il y a des attaques dans la presse révolutionnaire royaliste contre un certain nombre de femmes républicaines qui sont d'une violence inouïe. Et Olympe de Gouges et Madame Helvétius, la femme du grand philosophe Helvétius, habitaient toutes les deux à Auteuil et un folliculaire royaliste, l'abbé de Bouillon de Bonnefoy, les a attaquées, traitant l'une de sorcière et l'autre de folle. En fait, ces anathèmes, ce sont les anathèmes éternels des antiféministes, de ceux qui pourchassent les sorcières depuis la Renaissance et qui effectivement sont des misogynes, on va dire, pour simplifier. Mais enfin, il y a toute une histoire de la femme, il y a toute une histoire de la persécution des femmes qui sont actives et créatrices. Il faut savoir que la femme créatrice, c'est quelque chose qui, n'a pas droit de cité en dehors de la maternité. La femme donne le jour aux enfants, mais elle ne peut pas être créatrice.
Rappelez-vous cette Virago, cette femme-homme, l'impudente Olympe de Gouges, qui la première institua des sociétés de femmes, qui abandonna les soins de son ménage, voulut politiquer et commit des crimes. Tous ces êtres immoraux ont été anéantis sous le fer vengeur des lois, et vous voudriez les imiter? Non, vous sentirez que vous ne serez intéressante et vraiment digne d'estime que lorsque vous serez ce que la nature a voulu que vous fussiez. Nous voulons que les femmes soient respectées, C'est pourquoi nous les forcerons à se respecter elles-mêmes. Pierre-Gaspard Chaumette.
Pour Olympe de Gouges, il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que c'est une femme qui était veuve très jeune, à 20 ans, et pour des raisons personnelles, elle a choisi de ne pas se remarier. Et elle a vécu maritalement avec un haut fonctionnaire de la marine, Jacques-Béatrice de Rosières, qui a joué le rôle d'époux pour elle, avec lequel elle s'est très très bien entendue, sauf un peu à la fin de la dernière année de sa vie. Lui était un peu lassé de Olympe, qui était beaucoup trop impliqué dans les affaires politiques, et donc il avait pris ses distances. Mais enfin, elle a une vie tout à fait convenable, à nos yeux modernes, mais à l'époque, et surtout au XIXe siècle, une femme non mariée, c'est une femme suspecte, et Olympe de Gouges, qui de toute façon était une femme libre, comme beaucoup de femmes de la fin du XVIIIe siècle, qui avaient des amants, y compris à la cour de Versailles, toutes les amies de Marie-Antoinette avaient des amants, et personne n'a songé à leur reprocher, parce que probablement c'était des dames de la cour. Mais enfin, Olympe de Gouges n'appartenait pas à la noblesse. Elle n'a jamais caché qu'elle avait eu elle-même des amants et qu'elle était libre. Et donc, ça a nourri tout un discours hallucinant de misogynie de la part d'un certain nombre d'historiens prétendus. Je pense à un certain Guillois, qui a publié une étude médico-psychologique sur Olympe de Gouges qui n'a ni queue ni tête. Et puis également, les premiers historiens ou les premiers érudits ou chercheurs qui ont voulu s'intéresser à Olympe de Gouges au début du XXe siècle, très marqués par leur époque et par les mentalités de leur temps, ont senti qu'Olympe de Gouges était sulfureuse parce que le fait de ne pas être mariée, ça leur paraissait très suspect.
Au printemps 1793, l'insurrection gronde. Le général Dumouriez est passé à l'ennemi, la Vendée s'est soulevée. La guerre civile est en germe dans la volonté girondine d'instaurer le fédéralisme pour combattre la toute-puissance des députés parisiens. Fédéralisme incompatible à l'évidence avec la République une et indivisible.
C'est 32 victimes, les 31 députés girondins arrêtés, et moi, peuvent éteindre les haines et les passions, si elles peuvent. Ça ne va pas, Nicolas?
Madame, je voudrais vous parler.
Quand nous aurons fini.
Non, je ne veux pas finir. Je ne veux plus écrire ce que vous dictez.
Vous serez payé demain, mon petit. J'attends Monsieur Biétrix.
Mais Monsieur Biétrix ne viendra pas. Et ce n'est pas une question d'argent.
Hé hey, du calme. Je comprends rien. Pourquoi Monsieur Biétrix ne viendra-t-il pas?
Et il n'a pas osé vous le dire. Il s'éloigne un peu de vous. Il a peur. Il est parti en province.
Où cela?
Je ne sais pas. Et moi aussi, j'ai peur, madame, et je vais m'en aller.
Vous avez peur de moi?
Non, j'ai peur pour vous. Je ne sais pas ce qui vous prend de partir en guerre pour les beaux yeux des députés de la Gironde. Mais vous ne les connaissez pas. Vous n'aimez pas Madame Roland. Les Girondins menacent l'unité de la République.
Ils sont les ennemis de Robespierre, donc ils sont mes amis.
Mais c'est un raisonnement infantile. C'est une attitude politique anti-révolutionnaire.
Vous m'ennuyez, Nicolas. Si vous voulez me quitter, quittez-moi. Mais ne me faites pas la leçon. Et ne tentez pas de me faire changer d'avis.
Je regrette et j'ai honte de vous quitter. Vous faites une énorme bêtise en ce moment. Permettez-moi de vous le dire. Mais oui, quand vous me faites écrire, vous cherchez le premier coupable. C'est moi, frappez, j'ai tout prévu. Je sais que ma mort est inévitable. Vous faites la partie trop belle à vos ennemis. Ils diront que vous les avez provoqués consciemment. Ben, je ne veux pas vous aider à mourir.
Tu veux me laisser mourir seul, petit? Comme mon fils? Comme Jacques Biétrix, semble-t-il?
Nous faisons tout, madame, pour vous empêcher de mourir. Me permettez-vous un conseil?
Jamais de conseil, petit.
Ah ben, puisque je m'en vais, je vous le donne tout de même. Quittez Paris, partez pour la Touraine, allez embrasser vos petits-enfants. Vous reviendrez avec l'envie de vivre.
Va-t'en, Nicolas. Tu es un bon garçon.
Au citoyen président de la Convention nationale, le deuxième jour de la décade. Citoyen président, je suis condamné à mort pour avoir été trop idolâtre de la Révolution. Puissent mes ennemis me pardonner ce crime comme je leur pardonne. Malade, sans défense, je n'ai eu pour appui que mon innocence. Hélas, je ne vous demande point la révision de cette incroyable condamnation. Je suis enceinte de quelques jours par des signes non équivoques. Sans doute ma douleur et la longue persécution que j'éprouve ne me feront point arriver à mon terme. Mais du moins j'aurai la douceur avant ma dernière heure de recevoir des nouvelles de mon fils. Il est dans les armées du Rhin en qualité d'officier général. Puis-je mourir de douleur ? Je demande à la Convention, au nom de la nature et d'une victime férocement précipitée dans les tombeaux, de me faire donner des nouvelles de ce fils dans la prison où l'on m'a déposé. Puisque je suis morte au monde pour tous les vivants, je ne puis recevoir des nouvelles que par la Convention elle-même. Elle ne me refusera pas du moins cet acte d'humanité pour tous les services que j'ai rendus à la patrie, au peuple et à la liberté, que mon arrêt de mort va immortaliser. Olympe de Gouges.
Enfin, je cherche cette carte.
Donc Jean-Paul Avis, on vient vous voir pour une lecture funeste, puisqu'il s'agit des derniers écrits de l'âme de Gouges. Auriez-vous la gentillesse de nous donner lecture de ce document ?
Mais si vous voulez, je ne sais pas sur quel ton elle l'aurait lu elle-même, mais je peux la lire telle qu'elle est. Au citoyen de Gouges, officier général dans l'armée du Rhin. Je meurs, mon cher fils, victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple. Ses ennemis, sous le spécieux masque du républicanisme, m'ont conduite sans remords à l'échafaud. Après 5 mois de captivité, je fus transféré dans une maison de santé où j'ai été libre comme chez moi. J'aurais pu m'évader. Mes ennemis, ni mes bourreaux ne l'ignorent pas. Mais convaincu que toute la malveillance réunie pour me prendre ne pourrait parvenir à me reprocher une seule démarche
contre la révolution.
J'ai demandé moi-même mon jugement. Pouvais-je croire que des tigres
démuselés seraient juges eux-mêmes contre les lois, contre même ce public assemblé qui bientôt leur reprochera ma mort? On me présente mon acte d'accusation 3 jours avant ma mort. Dès l'instant de la signification de cet acte, la loi me donnait le droit de voir mes défenseurs et toutes les personnes de ma connaissance. On m'a tout intercepté. J'étais comme en secret, ne pouvant pas même parvenir à parler au concierge. La loi me donnait aussi le droit de choisir mes jurés. On me signifia la liste à minuit et le lendemain à 7 heures, on me fait descendre au tribunal, malade et faible, et n'ayant pas l'art de parler au public, semblable à Jean-Jacques, ainsi que par ses vertus. Je sentis toute mon insuffisance. Je demandai le défenseur que j'avais choisi. On me dit qu'il n'y est pas ou qu'il ne voulait pas se charger de ma cause. J'en demande un autre à son défaut. On me dit que j'ai assez d'esprit pour me défendre. Oui, sans doute. J'en avais de reste pour défendre mon innocence qui parlait aux yeux de tous les assistants. Je ne nie pas ce qu'un défenseur aurait mis pour moi dans tous les services et bienfaits que j'ai rendus au peuple. 20 fois j'ai fait pâlir mes bourreaux. Et ne sachant que me répondre à chaque phrase qui caractérisait mon innocence et leur mauvaise foi, ils ont prononcé ma mort. De crainte que le peuple opine d'une iniquité dont le monde n'a pas encore offert l'exemple. Adieu mon fils. Je ne saurai plus quand tu recevras cette lettre. Mais quitte ton état, l'injustice que l'on fait à ta mère et le crime que l'on commet envers elle. Je meurs, mon fils, mon cher fils, je meurs innocente. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle. La loi, rappelle-toi, de mes prédications sans cesse. Je laisse la montre de ta femme ainsi que la reconnaissance de ses bijoux au Mont-de-Piété. Le flacon et les clés des malles que j'ai fait passer à Tours. De Gouges.
Sa dernière pensée a donc été pour son fils.
Oui, et même avec des détails pratiques. Elle lui demande aussi de quitter son état, apparemment. Je ne pense pas que ce soit de quitter
la France, mais de quitter son état d'officier dans une armée qu'elle ne reconnaît plus comme celle qui devait accomplir la révolution auquel elle souhaitait, elle, et qui a été, son sens, trahi par la terreur.
Et c'est d'autant plus poignant que non seulement il ne quittera pas son état, ce fils, mais en plus il la reniera afin de poursuivre sa carrière dans les armées.
Mais oui, c'est très glorieux de sa part. Eh bien, lui, il n'est pas beaucoup resté dans l'histoire, contrairement à elle. Donc c'est peut-être, probablement elle qui était la juste de la famille, plus que lui.
Olympe de Gouges ou la révolte d'une femme. Avec Betty Daël, éditrice, Françoise Chapuis, des Fémoustés, Olivier Blanc, historien, Chantal Bigot, libraire, Jean-Paul Avis, bibliothécaire à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Lecture, Marion Marais et Laurent Lederer. À part le morceau des Fémoustés dédié à Olympe, les musiques originales sont composées et interprétées par les Coqs en Plâtre. Archives de l'INA, revue de presse de Stéphanie Duncan pour 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet, Olympe de Gouges, en scène pour la Révolution, une dramatique de Geneviève Bray, diffusée sur cette même antenne en juin 1989. Documentation, Christine Gage, Émilie Tracente à l'INA, prise de son, Pierre-Alain P. de Bernade, mixage, Marie-Dominique Bougot. Merci à Marie-Pierre Thomas pour son aide sur les terres d'Olympe et à Betty Gaston qu'il faut contacter pour ceux qui souhaiteraient découvrir ou s'intéresser à Olympe de Gouges.
Betty, vous rentrez à Montauban ?
Elle dirige les éditions Cocagne à Montauban qui font un travail magnifique sur la publication de l'œuvre complète d'Olympe. Nous n'en sommes qu'au tome 1 qui concerne le théâtre.
Salut.
Et nous attendons la suite avec impatience.
À bientôt.
Et à bientôt.
Les coordonnées des éditions Cocagne sont disponibles sur le site internet du Vif du Sujet.
Salut.
Olympe est un virus qui ne guérit jamais. Quand on l'a attrapé, on le garde.
Une maladie incurable.
Ah ouais.
Olympe de Gouges ou la révolte d'une femme. Gilles Mardi-Rossian. Simon Guibert.
Ciao Betty.
Ciao, ciao.
Ça m'a fait plaisir. On s'appelle.
Ouais. Maintenant qu'on a nos numéros.
16h. Une minute sur France Culture, non pas France Sépulture, et s'ouvre le second acte du Vif du Sujet en direct de notre studio parisien avec nos deux invités, la comédienne et réalisatrice Laure Dutilleul qui nourrit l'idée d'incarner un jour Olympe à l'écran, elle va nous en parler, et l'historienne aujourd'hui chargée de mission aux droits des femmes dans le département de la Sarthe, Evelyne Morin-Rotureau, et qui vient à ses micros à titre privé. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour. On vient de laisser là notre héroïne. On n'a pas entendu le bruit du couperet, mais on l'a imaginé. Voilà la belle et courageuse Olympe partie, la tête tranchée. Et je serais tenté de dire, pire encore, on assistera à sa seconde mort programmée ensuite par tous ceux qui auraient pu pourtant et qui auraient eu comme devoir de perpétuer son souvenir, si ce n'est d'amplifier son combat. C'est ce qu'elle souhaitait et écrivait dans l'un des derniers textes aussi que j'ai lu, qu'elle nous a légué. C'était cette affiche émouvante qu'elle rédigeait en prison alors qu'elle pressentait sa mort. Elle faisait en quelque sorte un retour en arrière, interpellant publiquement les députés de la Convention sur sa conduite passée. Un texte avec votre permission que je glisse dans vos mains, Laure Dutilleul, pour que vous lui donniez vie à celle qui sera un jour votre double.
Tout sera compté quand je ne serai plus. On apprendra au peuple ce que j'ai fait pour lui. On lui dira. Cette femme que de vils assassins ont immolée fut ton soutien dans le grand hiver. Elle fut nommée la mère du peuple par tous les cœurs. Par ses écrits, humains et populaires, elle excita la bienveillance des riches et des gens de la cour. Elle sut à propos les menacer du désespoir du peuple, et cette saine terreur émut toutes les âmes en faveur des pauvres et des ouvriers sans travail. Elle indiqua les ateliers publics, Elle donna le projet de l'impôt révolutionnaire et tant d'autres projets aussi précieux pour la cause publique. Elle fit plus. Elle sacrifia sa fortune entière. Elle méprisa la cour et ses bienfaits. Elle mourut pauvre. Voilà la femme dont on t'a privé. Oui, tout me force à croire qu'on tiendra ce langage sur mon compte. Le bien ne se perd jamais sur la terre. L'expérience nous apprend que l'être vertueux, qui fut persécuté dans sa vie, recueille après sa mort les larmes de la reconnaissance et que sa mémoire est honorée.
On va réfléchir justement sur cette dernière phrase, sur cette mémoire honorée, parce que il n'en a rien été, preuve en est, lorsque Simon Guibert, qui est à nos côtés aussi, est venu me suggérer d'aborder cette singulière et édifiante biographie. J'ignorais tout d'Olympe jusqu'à son nom. Vous voyez, Évelyne Morin, Rotureau et Laure du Tillet, j'ai pas peur d'afficher mon ignorance. Et j'aurais peut-être eu plus de scrupules à le faire si je ne savais qu'elle était partagée par moult d'entre nous. Mais s'agirait-il alors peut-être de nommer, en début d'émission, les coupables, de pointer du doigt, là, en direct, dans cette seconde partie du Vif, les responsables de cet oubli, Évelyne Morin-Rotureau?
Bien, on peut d'abord dire que l'histoire a de tout temps été écrite par les vainqueurs, et donc en l'occurrence par les hommes, et qui n'ont pas fait que d'oublier Olympe de Gouges, mais nombre de femmes qui ont été très importantes dans la fabrique de l'histoire en France. Et il est vrai que Olympe de Gouges est très peu présente encore dans les manuels scolaires. On commence depuis quelques années à faire une place aux femmes pendant la Révolution, mais en ne citant pas toujours Olympe de Gouges.
Alors vous qui êtes historienne de formation, qui vous organisez aussi en tant que chargée de mission aux droits des femmes dans la ville du Mans, c'est ça, hein, des colloques, des cycles de conférences baptisés Paroles de femmes, des conférences qui ont d'ailleurs donné lieu à un prolongement bienvenu aux éditions Autrement, dans la collection Mémoire, je dis pas de bêtises jusque-là, il y a 3 tomes qui sont disponibles, qui retracent par époque ces combats de femmes. C'est comme ça que les volumes ont été appelés. Hein.
Oui, tout à fait.
Ouais. Et le premier d'entre eux est consacré à la décade 1789-1799. Et il s'ouvrait naturellement, j'allais dire, par l'évocation de notre Olympe. Et puis, vous aussi, Évelyne Morin-Rotureau, vous avez, à votre manière, contribué à cette œuvre de réhabilitation qu'on a évoquée toute cette heure, en publiant une biographie d'Olympe dans une collection qui est destinée aux enfants. Et lorsque ces enfants découvrent, un peu grâce à vous, le personnage d'Olympe de Gouges, qu'est-ce qu'ils vous disent, madame?
Ils sont complètement étonnés et ils disent « Mais madame, pourquoi nous a-t-on menti ?»
Menti.
Pourquoi on ne nous en parle pas à l'école? Et je crois qu'effectivement, Olympe de Gouges est un de ces personnages clés de l'histoire, de la grande histoire.
Mais c'est un mensonge par omission.
C'est un mensonge par omission, mais pour plein d'autres femmes également. Et ils sont très curieux de savoir ce qu'elle a fait. Quand je dis, par exemple, que Mirabeau a dit à un moment qu'elle avait fait la Constitution elle toute seule, ils sont très étonnés. Un écrivain comme Bernardin de Saint-Pierre l'appelait l'ange de la paix.
Oui.
Alors que l'image, il y a eu un texte qui a été lu dans le reportage, l'image que les révolutionnaires ont voulu laisser d'elle, c'est celle d'une virago. D'une femme avide de violence. Alors que ce n'était pas du tout ça. Dès 1789, lorsque 6000 femmes vont chercher le roi, la reine et la famille à Versailles, elle s'insurge contre déjà cette montée de la violence lorsqu'elle sait qu'il y a eu 2 morts pendant cette révolution, 2 gardes de la reine dont on affichait les têtes au bout d'une pique. Donc, pendant toute la Révolution, elle va s'élever contre cette violence. Et à la fin de sa vie, elle va dire des choses terribles contre Robespierre, hein, qui lui a peut-être écourté la vie d'ailleurs. Elle a dit à Robespierre « Je te plains et je t'abhorre. Mon âme est véritablement républicaine, la tienne ne le fut jamais. Tu te dis l'unique auteur de la Révolution, tu n'en seras éternellement que la honte. »
Elle signe son arrêt de mort en disant ceci, parce qu'on est tout de même, on l'a évoqué ce contexte-là, de la terreur naissante de cette année 93, les levées de masse qui allaient être faites. Elle sait que ça va la conduire inexorablement vers cette fin dramatique.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes ont été très présentes pendant la Révolution jusqu'en 1793. Elles sont présentes dès le début, dès 1789. Et en 1793, il y a toute une série de lois qui sont prises pour interdire aux femmes de prendre la parole en public, pour interdire les rassemblements de femmes, pour interdire les clubs de femmes, etc. Et c'est à ce moment-là que Charlotte Corday ou Olympe de Gouges vont être guillotinées.
Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir à quel point, je le disais en lançant le documentaire de Simon Guibert, il y a une contemporanéité, il y a une énorme modernité des propos, des écrits d'Olympe de Gouges, et puis qu'on peut s'en emparer. Vous, par exemple, Evelyne Morin-Rotureau, comment elle est arrivée jusqu'à vos travaux, jusqu'à devenir un...
Moi, je l'ai découverte grâce aux travaux d'Olivier Blanc. Quand il a écrit pour le bicentenaire de la Révolution sa première biographie sur Olympe de Gouges, j'ai été... Mais... complètement passionnée par ce personnage et choquée qu'il ne soit pas connu. Comme j'ai été choquée lorsque j'ai découvert à 17-18 ans que le suffrage universel de 1848, j'avais appris petite fille, était en réalité un suffrage masculin. Donc c'est comme ça qu'on découvre un petit peu l'oubli des femmes. Mais vous avez raison de dire qu'Olympe de Gouges est d'une modernité et c'est une visionnaire. Parce que, par exemple, elle a demandé des lois qui ne sont passées qu'au XXe siècle. Par exemple, en matière civile, elle a demandé que les enfants naturels aient les mêmes droits légitimes que les enfants légitimes. Ça a été réalisé en 1972. Elle a demandé que les mères puissent faire des recherches en paternité. C'est possible en 1912 en France. Elle a demandé que l'État s'occupe des demoiselles trompées, c'est-à-dire les mères célibataires. L'API, c'est 1976. Et puis, on peut en citer d'autres.
Oui, on pourrait citer aussi son combat qui a été évoqué pour l'abolition de l'esclavage, qui la rendrait très contemporaine dans nos débats aujourd'hui sur ses apports supposés positifs de la colonisation. Continuons un peu ce tour de table et je me penche vers Laure du Tilleul pour vous poser à peu près la même question, à savoir à quel moment apparaît ce personnage que vous avez maintenant envie d'incarner, et puis on va peut-être en parler un peu dans votre carrière d'actrice et de réalisatrice. À quel moment elle apparaît?
Elle s'est aussi occupée de l'impôt sur la fortune, non? Excusez-moi, je fais digression là.
1981.
1981, voilà, elle voulait taxer les gens en fonction du nombre de valets qu'ils avaient ou de la taille de leur carrosse.
Tout à fait, le nombre des serviteurs.
Le nombre de serviteurs, voilà. Moi, elle est apparue, c'est Betty Dahel et Aline Paillet qui m'ont fait rencontrer Olympe en 89, au moment de la commémoration.
Ça ne m'étonne pas d'Aline Paillet, notre collaboratrice de la chaîne, effectivement.
Qui oui, parce que je pense qu'elle pourrait être cousine d'Olympe. Oui. Enfin, je veux dire, dans la tête, c'est une cousine d'Olympe. Et Betty Dahel aussi, elle porte une flamme en elle, de citoyennes que j'admire beaucoup. Et citoyennes au sens où elles ont un point de vue critique et je dirais même pacificateur entre les hommes sur la vie dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'elles sont actives, elles parlent, elles s'expriment, elles s'engagent physiquement même dans leurs actions de citoyennes. Et c'est deux femmes que j'admire beaucoup. Donc j'ai découvert par elle la troisième, Olympe, qui m'a totalement séduite et dont j'ai envie de m'approcher. Donc effectivement, étant donné que je suis comédienne et réalisatrice, une des façons de m'approcher d'Olympe était d'essayer d'inventer un film.
Alors,
à partir de sa vie.
On se rend compte en écoutant à la radio, c'est parfois un peu du cinéma, ce documentaire de Simon Guibert et de Gilles Mardi-Rossian, qu'effectivement, il y a tous les éléments d'une véritable saga. Reste à savoir comment trier dans tous ces éléments-là pour en faire un synopsis percutant, mais sans avoir à nous le livrer, puisque je crois qu'il est encore qu'en état de préparation. Comment vous imaginez-vous pouvoir devenir son double?
C'est pas très compliqué, c'est juste une question d'argent et de production, parce que je pense qu'inventer un scénario à partir de sa vie, c'est pas extrêmement difficile, et donc je pense que il faut qu'une chaîne de télévision, je dirais publique, ait le désir de réhabiliter ou de participer à la réhabilitation de l'âme, mais je pense que ça va venir. Moi après j'ai raconté l'histoire d'une autre femme, dans mon premier film là qui est sorti en septembre, dont j'étais occupée ailleurs. Là, je suis en train d'écrire l'histoire encore d'une femme qui se passe en Chine. Mais je suis toujours vigilante, j'ai des antennes. Et si quelqu'un s'intéresse à Olympe, cette personne peut me contacter, surtout si elle a envie de produire quelque chose autour d'Olympe. Parce que je pense que ça fait partie, je pense qu'au cinéma, la mise en production crée presque autant de sens que le scénario, c'est-à-dire la façon dont on envisage de fabriquer un objet, une œuvre de cinéma ou de télévision. Donc je suis là. Hein.
Vous êtes là, et puis mais vous n'allez pas confier, comme vous l'avez fait dans À ce soir, ce film qui a été présenté à Cannes en 2004 dans la catégorie Un certain regard, vous n'allez pas confier le premier rôle à quelqu'un comme Sophie Marceau, vous allez vous en emparer vous aussi. Alors décrivez-la nous, pour vous, on l'a dit, tous les adjectifs sur elle, impétueuse, sulfureuse, voire arrogante, mais est fascinante, mais pour
elle,
vous...
elle était belle.
Simon Guibert, oui, je crois qu'il elle a beaucoup belle, succombé, on a pu l'entendre.
Non, mais au-delà de mes affinités personnelles avec le personnage, il me semble, hein, peut-être qu'Evelyne pourra me corriger si je dis une bêtise, mais qu'elle a été élue une des plus belles femmes de Paris.
Oui, c'est ce qu'on a dit avant la Révolution, oui.
Voilà, non seulement c'était une femme de profondeur, de message, de conviction, de fidélité à ses idées, mais c'était aussi une femme complexe qui avait sa part maudite, puisqu'on parlait de la conscience avec laquelle elle a continué à mener le combat qui finalement va la conduire à l'échafaud. Et puis, il y a aussi sa splendeur physique que la plupart des hommes ne manquaient pas de remarquer.
Pourquoi avoir édulcoré, Simon, dans cette écriture-là documentaire, ces derniers moments, celles qui généralement vous passionnent quand vous décrivez ces morts illustres? Justement, je disais, le bruit même du couperet n'est pas tombé, n'a pas été signifié.
Si j'essaye d'être honnête dans ma réponse, je suis obligé de confier que je n'ai pas compris. J'ai eu quelques intuitions qui m'ont permis de tenter de comprendre, mais ces intuitions n'ont pas été suffisantes. De toute évidence, consciemment, elle a continué un combat qu'elle savait éminemment dangereux. Il m'a semblé que c'était peut-être en rapport avec ce qu'on pouvait appeler la morale ou la moralité remise dans le contexte du XVIIIe siècle. C'était en même temps pour elle une question de fierté, d'amour propre et aussi de fidélité à son propre combat. Peut-être de fidélité à elle-même.
Évelyne Morin-Rotureau, vous avez compris ce que Simon essayait de nous signifier?
Un peu, oui. Oui, je crois que c'est vrai. Enfin, faut pas oublier que c'était une époque éminemment dangereuse. C'était la terreur qu'elle combattait d'ailleurs. Et elle savait tout à fait qu'elle était allée, peut-être avec le manifeste des Trois Urnes, un petit peu trop loin. Hein, et ça suivait sa défense des Girondins. Mais moi, j'aimerais revenir à un aspect qui est très intéressant aussi d'Olympe, c'est les manifestations de femmes qu'elle organise. Elle se fait rire d'elle parfois, hein, lorsqu'elle prend la tête de manifestations de femmes, mais pour elle, c'est très important parce qu'elle veut montrer par là que les femmes sont un corps social, hein, et elle ne veut plus que les femmes soient considérées comme des filles de, sœurs de, femmes de. Et ça, c'est important parce que, par exemple, après la Révolution, on va complètement oublier cette donnée-là, et il faudra attendre la fin du XIXe siècle avec Hubertine Auclert pour le centenaire de la Révolution française. Hubertine Auclert va oser dire qu'il existe encore une Bastille des femmes et qu'il faut combattre cette Bastille des femmes. Et puis quelques années après, en 1914, en juillet 1914, c'est la grande journaliste Séverine qui va prendre la tête d'une manifestation, et c'est très habile de sa part parce qu'en fait elle réclamait le droit de vote pour les femmes, ce que réclamait Olympe de Gouges pendant la Révolution. Et cette manifestation, Séverine va emmener ces 6000 femmes déposer une gerbe de fleurs à la statue de Condorcet, hein, puisque Condorcet avait aussi défendu le droit de vote des femmes. Et donc, vous vous rendez compte, depuis la Révolution, depuis les manifestations qu'a organisées Olympe de Gouges, il n'y aura pas d'autres manifestations de femmes avant 1914. Et après, il faudra attendre plutôt les années 30.
Sans vouloir exposer beaucoup ici trop fortement mon goût de l'anecdote, qu'est-ce qui se passe alors au moment du bicentenaire de la Révolution, Évelyne oui. Morin-Rotureau?
Au moment du bicentenaire de la Révolution, bien sûr, il y a le président Mitterrand qui veut faire entrer 3 hommes au Panthéon. C'est Condorcet, Monge et l'abbé Grégoire. Et encore une fois, aucune femme n'est proposée. Hein. On sait très bien qu'au fronton du Panthéon, c'est marqué aux grands hommes la patrie reconnaissante. Et que très souvent, le neutre, hein, ça veut dire masculin dans la langue française. Donc il y a des historiennes féministes qui ont réagi et qui ont proposé 3 femmes.
Mais sérieusement.
Ah, bien sûr. Elles ont même rencontré.
C'est pas juste
Mitterrand.
Une manifestation d'agités.
Pas du tout. C'est très
comme
officiel.
Comme si les femmes ne pouvaient pas être sérieuses.
Non, c'est non, incroyable. Parce que j'ai des échos contradictoires sur ce.
Il y avait Catherine Maran-Fouquet et d'autres historiennes. Et donc, elle propose 3 femmes, Bertie Albrecht, Marie Curie et Olympe de Gouges. Et la réponse de Mitterrand est absolument fabuleuse. Il dit que pour cette fois-ci, c'est trop tard, mais qu'il y pensera pour une prochaine fois. Il y pensera pour Marie Curie et Bertie Albrecht. Mais non, pas Olympe de Gouges, parce que quand même, c'est une femme trop sulfureuse. Et
sulfureuse. Et il prononce pas le mot galante ?
Non, il prononce pas le mot galante, il prononce le mot sulfureuse. Et alors que Olympe de Gouges n'a jamais fait partie des femmes galantes. Elle faisait partie du bottin mondain. Mais dans ce bottin mondain, il y avait des hauts fonctionnaires, etc. C'était le, on dirait le tout Paris aujourd'hui. Hein, ça n'a rien à voir avec la galanterie. Et eh bien, il faut attendre quand même 1995 pour que l'une de ces trois femmes entre au Panthéon. Et ce n'est pas un hasard, c'est Marie Curie qui va entrer. Marie Curie avec son mari.
Il faudra attendre, je crois, mars 2003, à l'occasion de la journée de la femme, pour qu'une rue soit dédiée à Olympe de Gouges à Paris, je crois.
Oui, grâce à l'historien Olivier Blanc, en grande partie, hein, et au maire du 3e arrondissement. Oui, cette place est en haut de la rue de Turenne.
Et alors, je crois que le communiqué de presse qui a été mis en ligne, signé par, je crois, un adjoint vert, disait « Justice étant enfin faite », pourquoi j'ai du mal comme ça à le prononcer, à une audacieuse féministe. Mais est-ce que là, c'est pas se tromper un peu et la réduire qu'à ce rôle-là ?
Si, alors, excusez-moi, non, mais moi, le rôle d'Olympe de Gouges ne se réduit en aucun cas au féminisme. Et puis, féminisme, c'est aussi une certaine forme d'anachronisme, parce qu'à l'époque, ça voulait dire quoi ?
Oui, le mot n'existait pas à la Révolution, de toute façon. Mais je crois que, de toute façon, sur la plaque, c'est pas marqué ça, c'est marqué humaniste. Hein, et véritablement, c'était une humaniste. Enfin, vous avez eu raison de rappeler son rôle dans la lutte contre l'esclavage. Elle a très bien vu tout de suite qu'en réalité, les Noirs n'étaient en rien différents des Blancs, mais que c'était un problème économique et c'était un problème d'accaparation de la richesse. Donc, si vous voulez, c'était une humaniste aussi en ce sens où elle s'est occupée de la pauvreté à un moment où ça passait pour quelque chose d'inéluctable. Il y avait des pauvres, oui, ben c'était comme ça. Elle, non, elle a réagi contre cela. Elle a demandé l'ouverture d'asile pour les enfants qui traînaient dans les rues. Elle a demandé l'ouverture d'ateliers nationaux pour les ouvriers au chômage et les ouvrières au chômage. Elle a demandé également la répartition, on en a un peu parlé dans le document, une réforme agraire, hein, en demandant que les terres en friche du royaume soient partagées entre les paysans. Enfin, véritablement, et puis elle s'est battue beaucoup aussi pour l'éducation des filles. Hein. Elle voulait que les filles reçoivent la même éducation que les garçons parce qu'elle voyait bien que la place inférieure que les femmes occupaient dans la société était complètement liée au peu d'éducation qu'on leur donnait.
Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de réagir par rapport à l'actualité. Peut-être on a bien sûr en tête l'élection cette semaine de Michelle Bachelet, qui est la première femme présidente en Amérique latine, élue au suffrage universel. On a la candidature probable de Ségolène Royal pour 2007 en France. On a le combat en politique, donc pour la parité, dont on considère d'ailleurs que le manifeste des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 serait le premier texte fondateur. C'est pour ça qu'on peut parler de sa modernité aujourd'hui.
Oui, tout à fait, parce que dans l'article 6, enfin, moi je voudrais vous lire l'article 6 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle dit « La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Il faudra attendre 1944 pour que les femmes votent et puisse être élue, et puis une loi sur la parité qui est complètement bafouée en France encore pour une grande partie.
L'article 10, elle énonce ceci, la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, c'est intéressant puisque l'échafaud, elle va le fréquenter. Lors du tilleul, il y aura une volonté de votre côté de jouer sur le moteur de cette dramaturgie-là.
Mais je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. C'est-à-dire que pourquoi c'est un personnage de cinéma ? Parce que c'est une héroïne. Enfin, c'est quelqu'un qui est engagé physiquement dans ses actions.
Et puis vous aimez la colère, vous ?
Non, mais c'est presque un film de cap et d'épée. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui s'engage physiquement. Elle le dit d'ailleurs avant de mourir. Elle dit :« Je suis femme. Je crains la mort. Je redoute mon supplice. Mais je n'ai point d'aveu à faire. Mourir pour accomplir son devoir, c'est prolonger sa maternité au-delà du tombeau. » Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est dans ses luttes engagées physiquement, ce que ne sont pas beaucoup nos femmes politiques d'aujourd'hui. Ceci, on n'est pas en période de crise comme pendant la Révolution. Mais je veux dire, elle se joue, elle, en tant qu'être, en tant que mère. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un de très actif. C'est pas seulement quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui agit, qui va elle-même coller ses affiches, qui va à l'imprimerie les chercher, qui empêche les huissiers d'entrer chez un vieillard quand on veut l'expulser. C'est quelqu'un qui se joue physiquement et qui joue physiquement ses idées. C'est pour ça que je pense que c'est une héroïne de cinéma. Et elle organise la première manifestation. Enfin, c'est quelqu'un qui se met en danger physiquement. Ce que font peu, on est peu à le faire aujourd'hui.
D'ailleurs, elle disait qu'heureusement, on était dans un siècle, enfin, dans une époque laïque, comme ça, elle ne craignait pas, comme Jeanne d'Arc, la Sainte Grillade.
Dans son exhortation, justement, à remuer les femmes à qui elle en voulait, aussi peut-être de leur apathie ou de l'acceptation du rôle social qu'on leur faisait jouer. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On fête les 50 ans du planning familial aussi. Voici une autre actualité cette année. Évelyne Morin-Rathureau. Qu'est-ce qu'il reste aux femmes à revendiquer en plus de ce qu'elle a déjà fait?
Ben écoutez, je crois qu'en fait, ce que demandait Olympe, les femmes aujourd'hui du XXIe siècle n'ont pas encore gagné. Enfin, quand vous regardez la répartition des rôles dans les sphères du pouvoir, vous voyez encore à la télévision beaucoup de costumes et pas tellement de tailleurs. Hein, c'est bizarre parce qu'en fait, à partir du moment où on voit quelques femmes, peut-être 10%, on nous dit « Oh mais les femmes sont partout ». Mais quelquefois, moi, j'essaie de dire aux gens, mais essayez de faire l'inverse. C'est-à-dire, imaginez-vous une réunion importante, par exemple, où il y a 50 femmes et 3 hommes. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc, je trouve qu'on n'est pas encore dans une époque de véritable répartition des intelligences. Parce que, en fait, c'est un peu ça. Enfin, priver les femmes de tous les postes politiques, économiques, etc., c'est de priver d'une partie de l'intelligence d'un pays, puisque les femmes font des études même plus que les garçons aujourd'hui.
Mais est-ce que cette entreprise de réhabilitation d'Olympe de Gouges, qui plonge donc dans le temps en 1980 avec la première biographie d'Olivier Blanc, est pas en train de tout simplement tourner à la géographie? J'ai vu aucune critique que l'on pouvait lui apposer. On est en train de la statufier, d'en faire une sainte, ce qu'elle n'était manifestement pas.
Non, enfin...
Est-ce que c'est pas un risque, ça?
Oui, ben, tous les personnages publics, hein, y a toujours un risque d'agiographie, mais peut-être qu'il faut passer par là pour que les gens connaissent véritablement Olympe de Gouges. Et après, en la connaissant mieux, eh bien, on voit qu'elle était très humaine, hein, et qu'elle avait ses faiblesses, comme toutes les femmes et comme tous les hommes.
Lors du Tilleul, quelle faiblesse vous avez repérée chez Olympe et qu'il va falloir incarner?
Elle était très coquette au début de sa vie. Elle passait beaucoup de temps devant son miroir, etc. Donc, elle s'est construite peut-être aussi devant son miroir. Elle perdait beaucoup de temps à ça, aux apparences, etc. Puis, petit à petit, elle s'est rendue compte que ça ne servait pas à grand-chose, ce que je suis assez d'accord avec elle. Et voilà, donc je pense qu'elle a un vrai parcours où elle s'est interrogée sur ses propres contradictions, d'être femme, de plaire, de paraître, et puis d'être. Elle incarne vraiment l'être et le paraître. Et je pense que vers la fin de sa vie, elle a compris qu'il fallait, c'était plus, quand même plus intéressant d'être que de paraître, même si le paraître pouvait servir à être. C'est toute la complexité des femmes. Mais de toute façon, je crois qu'on restera toujours un mystère.
Ça, je le sais. Mais est-ce que ça peut être le mot de la fin, Évelyne Morin-Rathureau?
Ben, écoutez, moi je trouve que Laure a bien résumé la chose, mais peut-être aussi il faut rappeler qu'elle a écrit plus de 40 pièces, oui, de théâtre, Olympe de Gouges, et une soixantaine de pamphlets politiques, alors c'est très important que ses œuvres soient rééditées, et que dans toutes ces pièces de théâtre, elle abordait des problèmes sociaux. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le théâtre était un vecteur d'idées très important, puisqu'il n'y avait que 4% des gens qui savaient lire. Hein. Donc elle a défendu ses idées à travers le théâtre, comme Beaumarchais a pu le faire, mais elle était assez critique envers Beaumarchais aussi, parce qu'il n'a pas voulu l'aider véritablement.
Ben, je vous lise un bout de son autoportrait, j'ai le temps?
Ben non, pas vraiment. Parce
que elle, je veux dire, elle ne se loupait pas, comme on dit.
Oui, elle ne se loupait pas. Mais deux phrases alors?
Je m'afflige de tout, je sais rire de même, une mouche qui me pique sans que je m'y attende me contrarie ou me fait entrer dans une colère insupportable, mais préparée aux souffrances et aux événements, je suis plus constante et plus paisible que l'homme le plus flegmatique. Les petits chagrins me désolent, les grands maux me calment et me donnent du courage. Donc elle sait bien qui elle est.
C'est vrai, et Cibon ne l'avait pas oublié dans son documentaire. Voilà. Et puis avoir plongé avec vous dans le temps en évoquant ce formidable personnage que fut Olympe de Gouges, eh bien, nous a pas permis d'arrêter sa fuite, hein, la fuite de ce temps qui s'écoule et qui va sonner malheureusement à la fin de cette rencontre que vous pouvez cependant prolonger grâce à l'outil virtuel qui permet d'abolir les traditionnelles notions d'espace-temps, c'est bien dit, non ? Et je veux bien sûr parler d'Internet qui vous autorise de réécouter cette émission à loisir toute la semaine et mieux encore, je vous l'ai annoncé la semaine dernière car c'est une nouveauté non négligeable qui vous permet dorénavant de la télécharger sur vos baladeurs. C'est, paraît-il, très confortable et cela se nomme, il va falloir s'y faire, le podcasting.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 janvier 2006.